France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Une plongée dans notre cerveau ce soir. Ce kilo et demi de matière molle situé entre nos deux oreilles, qui est notre centre de pilotage, l'organe le plus fascinant de notre corps aux performances infinies et que l'on connaît si mal tant il est complexe. 200 milliards de cellules et chaque cellule établit à peu près 5000 connexions avec les cellules voisines. Un vertige. Alors de quoi est faite cette matière molle et quelles sont ses capacités? Qu'est-ce que la plasticité cérébrale? Peut-on apprendre à tout âge? Peut-on faire des découvertes en dormant? Comment mémoriser en profondeur? Est-ce qu'on peut retarder notre déclin cognitif? Est-ce que potentiellement nous sommes tous bons en maths? Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau, sa perception, ses capacités, son entraînement, tempête sous un crâne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Eric.
Bonsoir.
C'est vous qui commencez cette émission. Nous vous écoutons.
Donc moi je suis né en 1957 et j'ai commencé l'école 5 ans après, en CP, et j'ai été découvert gaucher et la maîtresse a demandé à ma maman si elle pouvait me corriger le problème, qui serait un problème pour l'avenir, etc. Et donc ma brave maman lui a dit oui.
Bah oui.
Et donc je me suis retrouvé... avec des problèmes de crise de larmes, de mains dans la ceinture, de coups de baguette sur les doigts, de bégaiement, etc. Et depuis, j'ai l'impression que je cours après mes neurones et que je me fatigue à pas savoir quel cerveau va décider de quoi. Et c'est très compliqué, c'est invisible, donc c'est pas un handicap qui se... Mais bon, c'est très perturbant déjà d'un point de vue personnel et c'est très compliqué de faire comprendre ce qui se passe à quelqu'un. Donc par exemple, des fois, sans faire l'animal de cirque, mais il se trouve que j'écris des deux mains avec la main droite à l'endroit, puisque l'endroit c'est gauche à droite, et la main gauche dans l'autre sens et qui écrit en miroir.
Oui.
Enfin, des choses comme ça pour montrer que y a quand même un truc qui se passe dans ma tête et que...
Eh bien, on va savoir tout de suite. On va savoir tout de suite ce qui se passe dans votre tête. Bonsoir Stanislas Dehaene.
Bonsoir Christelle.
Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire psychologie cognitive expérimentale, vous avez publié l'an dernier Une idée dans la tête chez Odile Jacob, à partir des chroniques que vous avez faites sur France Inter l'été dernier. Merci infiniment d'être là. Je sais que grâce à vous, on va avoir l'impression dans trois quarts d'heure d'être plus érudit. Alors, on entend la détresse d'Éric, hein, qui a été gaucher contrarié. Il nous dit « Quel cerveau décide de quoi ?» En fait.
Les gauchers, c'est compliqué. Mais la première chose qu'on peut dire, d'abord sur le base du témoignage d'Éric, c'est que la petite enfance est un moment absolument crucial. Et derrière son histoire, il y a aussi une histoire de punition, une histoire d'enfant battu, si j'ai bien entendu, qui est tout à fait inacceptable, évidemment. Et ça, en soi, ça va avoir des conséquences négatives sur le cerveau. Alors après, être gaucher contrarié, ce sont encore des choses qui font l'objet de recherches, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, un gaucher, ça n'est pas le miroir d'un droitier. Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a différentes sortes de gauchers parce qu'en fait, chaque région du cerveau qui est latéralisée normalement chez les personnes droitières va pouvoir faire l'objet d'un échange avec l'autre hémisphère. Et donc, on va pas avoir un cerveau en miroir chez les gauchers, on va avoir un cerveau beaucoup plus complexe.
Voilà. Donc, il est différent ou pas ?
Il est différent, probablement, mais par exemple, pour vous donner un exemple, nous avons tous, la plupart d'entre nous, en tout cas 96% d'entre nous, utilisons l'hémisphère gauche pour parler. Et pour produire du langage, pour traiter le langage. Mais c'est encore le cas chez deux tiers des gauchers. Vous voyez, donc c'est pas vraiment un cerveau qui est inversé, le cerveau du gaucher. C'est un cerveau beaucoup plus compliqué et qui n'est pas encore complètement...
Mais parfois on dit qu'il est plus performant.
Alors
je dis ça parce que je suis gauchère.
Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on puisse dire ça spontanément. Je pense qu'un des thèmes de l'émission ce soir, c'est l'éducation. Et ce qu'on peut dire, c'est que les effets de l'éducation sont absolument massifs sur tous ces circuits.
Oui, donc, c'est-à-dire il y a le cerveau, il y a tout ce qu'on nous inculque en fait, qui va transformer notre cerveau, c'est ça que vous voulez dire ?
Absolument. Et donc ça veut dire que des différences initiales, qui peuvent être statistiques, mais éventuellement réelles, vont être complètement... complètement effacée ou modifiée sous l'influence de l'éducation. Une éducation qui doit être beaucoup plus positive que ce qu'on a entendu là, évidemment.
Mm-hmm. Alors, il y a une foule de questions au standard, je ne vous le cache pas, donc on va enchaîner. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir à tous et bonne année par la même occasion.
Et bonne année à vous.
Et surtout, bonne santé, surtout.
Alors,
et bon cerveau.
Ma question. Et oui, bien sûr.
Mais justement, Marc.
Alors, ma question concerne l'alimentation. Y aurait-il des aliments favorables ou au contraire défavorables à la mémoire?
Stanislas Dehaene.
Je suis un peu collé, je n'ai pas la réponse immédiate. Il est évident que nous avons tous besoin d'une alimentation équilibrée. Hein, ça, c'est le premier point. Et donc, il peut y avoir, surtout dans l'enfance, des carences qui sont absolument à éviter. Il y a une histoire qui est arrivée récemment, qui est assez dramatique. C'est le cas d'enfants qui ont été privés d'une vitamine absolument clé, la vitamine B11. Et ils ont été privés pendant un moment très court, parce qu'on a découvert le problème, on a essayé de le compenser, sinon ces enfants mourraient. Mais bien que ce problème ait été compensé, le simple fait qu'ils étaient privés d'une vitamine pendant quelques semaines dans l'enfance a causé des problèmes tout au long de la vie.
Ça a eu des conséquences.
Ça a des conséquences sur l'apprentissage du langage, sur l'apprentissage de la lecture et du vocabulaire. Donc on voit par cet exemple que c'est très important d'avoir une alimentation équilibrée. Maintenant, est-ce qu'on peut la booster à proprement parler? Je ne crois pas. Le cerveau est un organe qui se régule énormément et il n'y a pas de magie dans ce domaine-là. Il faut simplement s'assurer, par contre, qu'on n'empoisonne pas le cerveau. C'est peut-être l'occasion aussi de rappeler qu'il y a un poison contre lequel on ne lutte pas assez, c'est l'alcool. C'est un poison pour l'adulte, c'est un poison aussi, et surtout pour le cerveau en développement, et notamment in utero. Et donc là, on a encore chaque année des retards mentaux dramatiques, hein, parce qu'ils vont durer toute la vie, simplement parce qu'on n'a pas réussi à empêcher la prise d'alcool au cours de la grossesse. Il faut rappeler que là, il faut vraiment protéger ce cerveau qui est en développement à ce moment-là.
Est-ce qu'on doit dire que tout se joue dans l'enfance pour notre cerveau?
Non, on ne peut pas dire ça. On peut simplement dire qu'il y a une période sensible. Et quand l'enfance, c'est une période, c'est dans notre espèce qui est extraordinaire, c'est la durée de l'enfance. C'est une période extrêmement longue, 20 ou 25 ans, et ça commence avant la naissance. Hein. Le cerveau commence à se mettre en place avant même la naissance. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il se passe des événements majeurs. Donc, il va y avoir beaucoup de possibilités de compensation. On peut naître, par exemple, prématuré, avec un cerveau qui va être encore en train de se développer, ex utero et quand même s'en sortir extrêmement bien. Il y a énormément de possibilités de compensation dans le cerveau. Je raconte toujours aussi cette histoire absolument extraordinaire de l'hémisphérotomie, c'est-à-dire qu'il y a des enfants à qui on enlève un hémisphère parce que la pathologie est trop importante, l'épilepsie se propage trop et il faut arriver soit à enlever complètement un hémisphère, soit de plus en plus on le déconnecte. Eh bien, ces enfants peuvent dans un certain nombre de cas, se développer quasiment normalement. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais ça montre quand même l'extraordinaire potentiel
incroyable.
De plasticité.
Et notre cerveau, il est adulte vers quel âge à peu près?
Alors, c'est compliqué, donc on va dire vers 20-25 ans.
Oui.
Les circuits commencent à se figer, et on commence d'ailleurs à voir, c'est un peu triste pour nous tous, mais une sorte de déclin très lent du temps de réaction, par exemple. Donc si vous le mesurez, vous allez voir statistiquement, on perd quelques millisecondes, millièmes de seconde, chaque année, et ça décline à partir de 20-25 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas encore capable d'apprendre, on est encore capable d'apprendre des tas de choses.
Est-ce qu'on peut inverser la tendance ou pas?
Je crains que, malheureusement, il y a un certain déterminisme biologique là-dedans. Par contre, on peut toujours apprendre. Et il y a un certain nombre de choses qu'on apprend mieux à l'âge adulte, ou en tout cas aussi bien. Le vocabulaire des langues, on peut continuer à l'apprendre. On peut apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte. On ne sera pas aussi bon sur le plan de l'accent. On aura un accent étranger probablement terrible. Mais le vocabulaire, on peut l'apprendre.
On l'aura.
Sur le plan du cerveau social, ça c'est très important.
Qu'est-ce que vous appelez le cerveau social?
Il y a un certain nombre de circuits dans le cerveau qui représentent les autres. Et qui représente également nous-mêmes comme un autre, nous-mêmes au sein de la société. Donc les personnes qu'on connaît, leurs relations, leur hiérarchie éventuellement, et nos propres sentiments vis-à-vis d'elles, leurs sentiments par rapport à nous, etc. Et ce cerveau social, il lui faut des données. Ces données, elles viennent des rencontres que nous faisons autour de nous. Ça veut dire qu'en fait, ça c'est un avantage à avoir vieilli, à avoir quelque part recueilli plus d'informations à l'intérieur de ce réseau social. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que des personnes âgées sont des trésors vivants, parce qu'elles ont accumulé des informations à l'intérieur de ce circuit-là. Alors que d'autres circuits, malheureusement, ne peuvent plus apprendre aussi bien.
Ne peuvent plus faire aussi bien. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors, je me demandais si les enfants qui sont à haut potentiel intellectuel gardent ce potentiel toute leur vie, ou est-ce qu'il peut fluctuer en plus ou en moins, et si oui, en fonction de quoi ?
Stanislas Dehaene.
On ne connaît pas très bien les bases de ce qu'on appelle le potentiel intellectuel. Il y a d'ailleurs beaucoup de mythologie autour de ce sujet. Et mon ami Franck Ramu dissipe régulièrement ces mythes.
Quelle sorte de mythologie ?
Par exemple, on pense que les enfants avec haut potentiel intellectuel ont plus de problèmes que les autres. C'est plus difficile. En réalité, les données montrent que non. Oui. Leur scolarité est plutôt plus facile. Ça ne les empêche pas d'avoir des amis, d'avoir des émotions, etc. Et c'est plutôt plus favorable, évidemment, dans sa jeunesse, d'avoir un haut potentiel intellectuel. Ça, c'est un mythe de penser que ces enfants sont à problème parce qu'ils sont à haut potentiel intellectuel. Voilà.
Est-ce que ça peut changer ?
Alors, changer au cours de la vie, je ne sais pas vous répondre en réalité. Il faudrait voir. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des facilités dans la vitesse d'apprentissage qui nous différencient. Il faut quand même rappeler que, grosso modo, nous avons tous le même cerveau. Nous faisons tous partie de l'espèce humaine. C'est vraiment, il y a un universalisme du plan du cerveau qui nous différencie radicalement des autres primates. Et nos compétences sont très différentes de celles des autres primates. Mais à l'intérieur de cette enveloppe génétique qui est commune, il y a un tout petit peu de variation dans les vitesses d'apprentissage et qui ne sont pas parfaitement comprises.
Grégory, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Grégory. Soyez le bienvenu sur France Inter.
Merci beaucoup. Donc, je suis designer à la fois de formation et je dessine depuis très 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 longtemps, et je suis donc passionné par les mécanismes de la créativité. Et je me pose pas mal de questions à ce sujet-là, notamment sur la dimension héréditaire de la créativité. Est-ce qu'il existe le gène de la création, de la créativité? Et si cela n'existe pas, est-ce qu'on peut la développer? Est-ce qu'on peut l'augmenter? Y a-t-il des pratiques cognitives qui permettent de se connecter ces fameux réseaux du cerveau qui par défaut ne communiquent pas normalement entre eux? Et mon dernier point qui peut aller un peu plus loin, c'est existe-t-il des substances chimiques qui permettraient de connecter ces fameux réseaux?
Oui, on a perdu Grégory. Bon, alors, on commence par la première partie de sa question. La créativité du cerveau est-elle en partie héréditaire ?
Je ne suis pas sûr. Elle est très dépendante de la boîte à outils cérébrale dont on dispose. Et pour stimuler sa créativité, le plus important, c'est de donner aux enfants toute une panoplie de possibilités, notamment, puisqu'on en parlait là du dessin, c'est une dimension qui est assez négligée en ce moment, de même que l'apprentissage de la musique, évidemment. Et on a une idée en ce moment dans les sciences cognitives qui est en train d'émerger, c'est l'idée que le cerveau humain a une capacité particulière dans le domaine de la créativité parce qu'il est compositionnel. C'est-à-dire que contrairement à d'autres espèces, on le voit dans le domaine du langage, il est capable de composer des phrases qui créent des pensées nouvelles. Voilà. Mmh. Et une très grande part de notre créativité vient du fait que c'est une arborescence gigantesque qui peut se déployer. On est capable de combiner des mots, mais on est capable de combiner des notes, et ça devient de la musique et de l'improvisation. On est capable de combiner des dessins, et on le voit sur les grottes ornées préhistoriques, et c'est déjà là, il y a déjà
cette créativité. Et on est la seule espèce à être capable de faire ça.
Il n'y en a pas d'autres. Quand on voit un dessin, même les anthropologues ont découvert un zigzag sur un coquillage à Java, eh bien, on sait que c'est l'espèce humaine. Il n'y a pas d'autre espèce qui fait ça. C'est pas Sapiens, c'est un petit peu avant Sapiens dans ce cas-là. Ça montre qu'il y a une très longue histoire de l'espèce humaine dans le domaine de ce qu'on peut appeler la créativité, mais nous parlons, nous, en sciences cognitives, de la compositionnalité, la capacité de composer.
Vous parliez d'apprentissage tout à l'heure. Quels sont les quatre piliers de l'apprentissage, Stanislas Dehaene?
C'est une proposition que j'ai faite, on pourrait sûrement en rajouter, oui. Mais au minimum.
Mais vous en comptez quatre.
J'en compte quatre, très important. D'abord, faire attention. L'attention vraiment détermine ce qu'on va apprendre ou ne pas apprendre. Elle va même déterminer ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Ensuite, l'engagement actif, c'est-à-dire le fait de générer des hypothèses, de ne pas être passif face à l'apprentissage. Le retour sur erreur, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un enseignant, éventuellement un logiciel, mais le cerveau préfère les interactions humaines, et un enseignant qui me dit où est-ce que je me trompe. Précisément, sans punition, mais un signal qui corrige. Voilà. Et puis enfin, très important, l'automatisation. ans. C'est vraiment un pilier de l'apprentissage. On ne peut pas se contenter d'apprendre en une fois. Il faut y revenir. Notre cerveau a besoin de répéter l'information. Il y a d'ailleurs une règle que tous les auditeurs peuvent utiliser. Si vous avez des connaissances à apprendre, par exemple les étudiants en médecine, qui sont en première année en ce moment et qui doivent se farcir à une quantité
effroyable. C'est de l'ordre du gavage de cerveau, là.
Oui, c'est compliqué. En maths sup également. On peut apprendre une première fois, mais il va falloir y revenir. Et ce que montrent les sciences cognitives, c'est qu'on peut y revenir au bout de quelques jours, et ça va consolider pendant quelques jours. Et puis ensuite, on va y revenir au bout de quelques semaines, et là, l'information va être consolidée pendant à peu près l'équivalent, quelques semaines. On parle d'une période il faut réviser à peu près 20% du temps pour lequel on souhaiterait retenir l'information. Donc si vous souhaitez retenir l'information toute votre vie, il faut la réviser à l'échelle de quelques années.
Ah oui, il faut revenir sur des notions.
Absolument. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approche spirale en éducation, qui est implémentée par exemple à Singapour. On commence beaucoup plus tôt à apprendre des concepts mathématiques, par exemple. Mais on va y revenir, on les aborde à peine, on les touche de façon intuitive. Les fractions, on va y toucher en CP, mais on va parler de 1,5. Tous les élèves connaissent le mot 1,5, alors on va commencer à en parler. Et puis un quart, puis un tiers, et puis on va y revenir, et revenir, et revenir. Et c'est ça qui va former des réseaux beaucoup mieux intégrés, et aussi une confiance en soi vis-à-vis des mathématiques. Mmh. Alors ça, c'est peut-être le cinquième pilier. Hein. Il faut absolument avoir envie d'apprendre. Et pour ça, il faut avoir confiance dans sa capacité d'apprentissage.
Et cette confiance, on l'a pas toujours, et on n'est pas toujours encouragé quand on est à l'école.
Absolument,
au contraire, le système de notes, il est quand même assez terrible parfois.
L'école peut être dure, mais moi je voudrais dire aux auditeurs, mais ayez confiance, enfin, vous avez entre les mains, ou plutôt entre les oreilles, un organe absolument extraordinaire. Enfin, il n'y a pas d'équivalent dans le domaine de l'apprentissage, et il n'y a pas d'équivalent encore pour l'instant dans le domaine de l'intelligence artificielle. Notre cerveau est le meilleur outil d'apprentissage, et tout le monde l'a, enfin, tous les membres de l'espèce humaine en ont un. Donc c'est faux de dire à un élève tu es nul, tu es pas doué, tu vas pas y arriver, c'est l'inverse.
Vous voulez dire que tout le monde est capable de faire des maths ?
Oui, absolument.
J'ai du mal à vous croire personnellement.
Non, ça dépend jusqu'à quel niveau, mais parce qu'il y a une question de temps et d'attention qui y est consacrée. Mais tous les objets mathématiques font partie de l'enveloppe de ce qui est accessible à notre cerveau. Et certainement, bien entendu, les fractions, les nombres négatifs. Voilà. Si ça a été appris un moment par l'espèce humaine, c'est apprenable par tous les cerveaux humains.
Ça nous donne de l'espoir. Bonsoir Joël. Est-ce que vous m'entendez, Joël ? Il y a un petit décalage. Alors on va prendre Saïd. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonne année d'abord.
Bonne année à vous
et
soyez le bienvenu.
Merci.
Merci
à votre invité.
Merci.
Justement, j'avais une question par rapport, comme c'est bien une émission par rapport au cerveau, donc. Là, j'étais intéressé par rapport à un cerveau, je vous explique un peu. C'est qu'en 2004, depuis 2004, l'année 2004, j'étais insomniaque. Hein, donc, ça fait assez longtemps, ça remonte. Et en fait, c'est un cerveau, c'est-à-dire que c'est la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone et la sécrétion. De l'hormone du sommeil hein,
oui.
qui se fait pas quoi et donc mon cerveau en gros là, je suis toujours sous traitement de la mélatonine mais bon c'est une mélatonine vous voyez qu'on trouve en pharmacie qui répare pas le sommeil hein. Et ma question en gros c'est depuis 20 ans maintenant depuis 2004 je voulais savoir quelles conséquences cela peut provoquer au cerveau et aux potentielles pathologies qui peuvent... parce que je sais que le sommeil, c'est un besoin physiologique hein, qui est très important. Et je voulais savoir les méfaits qui peuvent avoir sur la santé et en même temps les impacts qu'il peut avoir prétendument.
Stanislas Dehaene vous répond.
Alors, je ne vais pas répondre sur le cas spécifique, hein, d'autant plus que je ne suis pas un neurologue.
Non, mais le lien entre sommeil et cerveau.
L'importance du sommeil, il faut vraiment la souligner de façon cruciale, hein, c'est ce que je fais dans ce petit livre. C'est une des phases absolument clés de l'apprentissage. Lorsqu'on dort, on a l'impression de ne rien faire, on a l'impression que c'est un repos, et ça l'est en partie. Hein, on sait qu'il y a une partie de nettoyage, si on peut dire, du cerveau. Mais il y a un rôle actif du sommeil. Et en particulier, notre cerveau, les neurones ne se reposent pas, c'est presque l'inverse, et ils vont décharger parfois à toute vitesse, beaucoup plus rapidement que pendant l'état de veille. Alors, ils ne vont pas être à l'écoute du monde extérieur, donc ça ne sert à rien de jouer des bandes magnétiques, par exemple, pendant le sommeil, mais ils vont être à l'écoute du monde
intérieur. Oui, on ne va rien apprendre pendant son sommeil.
Alors, on ne va rien apprendre de nouveau,
mais
on va consolider et même approfondir, et donc on va aller plus loin que ce qu'on avait appris pendant la veille. Le cerveau va rejouer ce qui a été appris et il va y redécouvrir de nouvelles idées. Mmh. Voilà, il va les recombiner, il y a cet aspect compositionnel dont on parlait auparavant. Mais donc, ce qui est très très bien démontré, c'est qu'un apprentissage qui a atteint son maximum pendant la journée, vous dormez dessus le lendemain matin sans avoir l'impression d'avoir rien fait, vous avez des performances qui sont meilleures simplement parce que vous avez dormi. Et cet effet est encore plus important dans l'enfance. Donc c'est extrêmement important d'apprendre à préserver le sommeil de nos enfants.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les coucher tôt.
Absolument.
Qu'ils aient un certain nombre d'heures de sommeil, genre 10 heures, c'est très important.
Alors c'est 10 heures à 10 ans.
Ouais.
Voilà. Beaucoup plus avant, hein.
Ouais,
attention
sûr.
Aux petits qui ont vraiment besoin de leurs 12 heures de sommeil et la sieste, c'est important, et c'est important pour l'école en particulier, l'école, ou plutôt la maternelle, doit réussir à organiser la sieste pour les enfants qui en ont besoin. Il y a une certaine variabilité entre les enfants, donc en grande section, il n'est pas question de dire, comme je l'ai parfois entendu dire, vous perdez du temps en leur faisant faire la sieste. Non, pas du tout.
Au contraire, leur cerveau a besoin de ça.
Ah, oui, absolument.
Est-ce que le manque de sommeil amoindrit nos capacités ou pas? C'était un peu le sens de la question.
Certainement, il nous empêche d'atteindre le principal potentiel d'apprentissage de notre cerveau. Ça, c'est très probable, oui. Et ce que les données montrent, c'est que nous sommes tous en manque de sommeil. En tout cas, il y a une augmentation.
On dort de moins en moins.
De la pénurie de sommeil. On dort de moins en moins, on est stimulé de tous les côtés. Mmh. Et il faut arriver à se déconnecter. Et puis, il faut arriver aussi à tenir compte de son propre cycle de sommeil. Alors ça, c'est important pour les ados. Parce que on se moque des ados qui ont du mal à se lever le matin, mais c'est pas de leur faute, c'est la faute de leur cerveau, si je puis dire. En tout cas, c'est un changement hormonal qui se traduit par un changement de la phase du cycle de sommeil. Donc, ils ont besoin de se coucher plus tard, ils ont du mal à s'endormir tôt, et puis ils ont besoin de se réveiller plus tard.
Donc, c'est pas la peine de leur dire tous les soirs à 8h30 quand ils ont 15 ans, il faut que tu dormes.
Il peut y avoir des contraintes, en tout cas, aussi, dans la vie, évidemment, de ces ados, mais c'est intéressant, il y a des écoles aux États-Unis qui ont décidé, ou des lycées plutôt, qui ont décidé de décaler l'heure d'entrée.
Oui.
Ça a des effets extrêmement positifs sur les apprentissages et sur bien d'autres choses. Sur
Parce
le
qu'en fait, ils les recalent sur le rythme de l'adolescent.
Exactement. Ils sont un peu plus proches, en tout cas, du rythme de l'adolescent. Je ne dis pas qu'il faut laisser dormir jusqu'à 11h30.
Non, sinon, ce serait 11h du matin.
On perd du temps pour apprendre également. Mais on perd aussi beaucoup de temps dans les réseaux sociaux qui, eux, ont des effets plutôt négatifs sur le sommeil.
On y reviendra. On a retrouvé Joël.
Je suis là.
Ah, nous vous écoutons, Joël.
Bon, je suis une grand-mère d'un petit-fils qui a 7 ans actuellement.
Oui.
Et lorsqu'il était plus petit, quoi, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il rentre en classe, il nous époustouflait, on peut dire, par ses connaissances, sa capacité à mémoriser, par les questions quasiment métaphysiques qu'il pouvait poser. Il était vraiment étonnant. À partir du moment où il est rentré en classe, il s'est avéré quasiment incapable de lire et d'écrire correctement.
Mais vous voulez dire qu'il savait le faire déjà ?
On en est tous très malheureux. Comment ?
Vous voulez dire qu'il savait déjà le faire ?
Non, 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 non,
ah
non, non,
d'accord.
Non, non, non. Alors, on avait bien, ses parents avaient bien essayé quelque peu, mais sans succès. Et puis on se disait, bon, bah, quand il rentrera en classe, ça ira mieux. Mais là, ça ne va pas du tout. Et donc, il a surtout perdu confiance en lui, bien sûr. Mais pour vous dire, par exemple, il était capable pour les deux guerres mondiales, 14 et 39-40, enfin, etc. De nous dire exactement tout ce qui s'était passé, les noms des généraux, des...
J'entends bien,
etc.
Il savait plein de choses et vous avez le sentiment, là, Joël, que tout à coup, il patauge, entre guillemets. Stanislas Dehaene.
Ce qu'on entend m'évoque une dyslexie. Parce que c'est assez caractéristique. On a un langage oral qui peut être parfaitement normal, et si j'ai bien compris, des circonstances familiales plutôt très favorables. Il faut voir si les circonstances scolaires le sont aussi, parce que ça fait partie de la définition de la dyslexie, c'est-à-dire les enfants qui n'arrivent pas bien à apprendre à lire alors que l'enseignement est excellent. Donc encore faut-il vérifier que ce soit bien le cas ici, mais je suppose. Et donc il faut, je pense, évoquer peut-être un diagnostic de dyslexie. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de dyslexie, donc c'est très important d'avoir un diagnostic qui soit fait par une orthophoniste ou un orthophoniste compétent. On sait maintenant qu'il y a des dyslexies d'origine visuelle, c'est-à-dire que c'est le système visuel qui a du mal, par exemple, à voir les lettres correctement, voir les lettres dans le bon ordre, ou bien à faire attention à un seul mot. On parlait de l'attention tout à l'heure. Lorsqu'on lit un texte, il faut arriver à sélectionner un mot et éviter les autres, n'est-ce pas? Et ça peut être une source de dyslexie également. Puis il y a d'autres enfants qui ont des difficultés à connecter les lettres avec les sons, voire uniquement avec les sons du langage. Alors, ils peuvent faire illusion quand il s'agit de parler, mais des tests précis peuvent montrer qu'ils ont des troubles phonologiques. Donc, vous voyez, il y a toute une série de circuits de la lecture qui, je pense, là, demanderait à être diagnostiqué finement.
Et j'ajoute la question d'Elisa qui vient de nous parvenir sur l'appli France Inter, qui demande, y a-t-il vraiment une différence entre le fonctionnement des cerveaux des personnes dyslexiques, dysorthographiques ou ayant d'autres troubles dys? Et si oui, quelles en sont les causes principales?
Et alors à nouveau, c'est compliqué parce que lire, c'est le résultat de toute une série d'étapes dans le cerveau. On a fait au laboratoire, à Neurospin, beaucoup d'images du cerveau d'enfants dyslexiques. Donc vers 9 ans, hein, quand la dyslexie est bien déclarée, qu'on est certain de les catégoriser, on voit que la grande partie du circuit normal de la lecture est sous-activée. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à savoir si c'est la cause ou si c'est la conséquence de la dyslexie. Et c'est assez difficile de remonter à la cause précise. On sait qu'il y a des causes génétiques, parce qu'on sait que les frères et sœurs d'enfants dyslexiques ont beaucoup plus de chances de l'être également. Mais donc, vous voyez, la chaîne
donc
complète
on n'arrive pas vraiment
qui permet
à savoir
d'aller
exactement
du gène
ce qui
au déficit
passe.
N'est pas encore parfaitement comprise. Et ce qui est très important, mais qui est seulement un développement assez récent, c'est d'arriver à vraiment séparer différentes formes de dyslexie.
On sait beaucoup de choses sur le cerveau et en même temps, on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose. On entend souvent qu'on ne connaît que 10% de notre cerveau. C'est vrai ou c'est ce que vous appelez, vous, un neuromythe?
Alors, en général, on dit qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Alors ça, c'est une idée bête. Oui. Je ne crois pas qu'on puisse quantifier. Mais c'est vrai qu'on est à la fois dans une période d'extraordinaire avancée des sciences du cerveau et en même temps, c'est toujours pareil en science. Plus on comprend ce qu'on ne comprend pas. Et on se rend compte qu'il nous manque énormément de connaissances.
On a réussi à cartographier le cerveau. Ça fait d'années qu'on travaille dessus, partout dans le monde.
Ça dépend à quelle échelle, vous voulez le dire, évidemment. Oui. On a une carte du cerveau humain avec 200 régions par hémisphère. Donc ça, c'est assez bien compris. On a une vague idée de la fonction de chacune de ces 200 régions. Mais à l'intérieur de ces régions, il y a des micro-territoires qui vont s'intéresser uniquement au visage, ou uniquement aux maisons, uniquement à certaines émotions. Et donc cet aspect-là n'est pas encore parfaitement compris. Et puis, il faut vous dire une chose, c'est qu'effectivement, moi j'utilise des moyens d'imagerie cérébrale, mais c'est très indirect. Dans un millimètre cube de cortex, il y a encore peut-être 30 000 neurones. Oui. Donc on ne les voit pas un par un. Pour les voir un par un, il faut aller voir chez l'animal. Et là, il y a des avancées extraordinaires, parce qu'on arrive maintenant à enregistrer des milliers de neurones en même temps, voire des dizaines de neurones.
Pourquoi c'est plus facile avec les animaux?
Parce qu'on s'autorise à être un peu plus invasif.
Oui,
des expériences qu'on ne ferait pas chez l'homme. Et à ce moment-là, on commence à voir vraiment finement comment marchent les choses. Et ce qui est intéressant aussi dans cette science, c'est qu'il y a un lien avec l'intelligence artificielle. On arrive à utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour essayer de jeter de la lumière sur le fonctionnement des neurones réels.
Odile, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, alors moi, ma question concerne un peu l'usure de la cognition. Hier soir, j'ai rangé dans l'étui de mon téléphone une petite carte que je devais recharger pour aller au ski. Ce matin, j'étais totalement incapable de la retrouver. Et à côté de ça, je suis capable de vous chanter « O Tannenbaum » en allemand, que j'ai appris lorsque je devais avoir 12 ou 13 ans. J'ai 70 ans. Et ça m'agace terriblement, parce que « O Tannenbaum » ne me sert à rien. Mais la carte, j'en avais besoin.
Ces problèmes de mémoire immédiate quand on vieillit, Stanislas Dehaene.
On les connaît tous. Hein. Et on parle vraiment de mémoire mémoire très différente. À la mémoire des automatismes, comme les jingles de publicité, par exemple, n'est pas du tout logée dans les mêmes secteurs que la mémoire à très court terme, ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui dépend du cortex frontal. Et alors, cette mémoire de travail, elle est très fragile, parce qu'elle correspond à un état d'activité du cerveau. Donc, tant que vous avez, je ne sais pas, le numéro de téléphone en mémoire, il est dans un état actif dans votre cerveau. Mais dès que vous êtes distrait, vous passez à une autre activité, même pendant quelques secondes, vraiment, l'information va redescendre à zéro. Donc, c'est une mémoire beaucoup plus fragile que les autres.
Et pourquoi les souvenirs les plus anciens, on les garde toujours ?
Parce que, sans doute, ils ont été ancrés beaucoup plus profondément dans des circuits qui, à l'époque, étaient beaucoup plus plastiques. On n'a pas encore évoqué le fait que, chez le jeune enfant, les circuits bougent beaucoup plus. Il y a une capacité de générer trop de synapses dans le cerveau de l'enfant, jusqu'à deux fois plus que chez l'adulte. Donc c'est un nombre gigantesque. Et ensuite, de sélectionner. Et quand on va atteindre l'âge adulte, ben c'est fini. Ces synapses sont en place. Certaines vont encore bouger un petit peu. Oui. La force de ces synapses va changer, mais il n'y aura plus du tout ce bouleversement des arbres. C'est un petit peu comme un jardin. Vous pouvez le tailler lorsque les arbres sont en croissance, qu'ils sont jeunes. Mais ensuite, ben c'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Donc, ça change tout d'être dans une situation où on inscrit des informations à un âge très jeune. Il y a même des expériences qui ont montré qu'il reste des informations dans les circuits, même quand on croit les avoir oubliées.
Ah oui.
On n'en a pas conscience, mais par exemple, des personnes qui ont été adoptées. Elles vivaient dans un pays, et puis elles ont été adoptées dans un autre pays. Eh bien, il semble qu'il reste dans leur cerveau des traces du premier apprentissage, même si on n'en a plus du tout conscience.
Les enfants, ils peuvent vraiment tout apprendre ?
Tout apprendre, je ne sais pas.
Enfin, on sait que, par exemple, pour apprendre une langue étrangère, il vaut mieux l'avoir dans l'oreille très tôt.
Oui, c'est ça. Je dirais plutôt les choses comme ça. On a organisé notre système éducatif parce qu'il y a cette fenêtre de plasticité cérébrale qui est extraordinaire dans le cerveau du jeune enfant. Donc, on a inventé l'éducation pour ça. C'est une observation que l'humanité a faite sur ses propres enfants. Il faut absolument profiter de cette période bénie et il faut en profiter tous les jours. Je suis sûr qu'il y a des parents qui nous écoutent, ce n'est pas qu'à l'école de faire mûrir le cerveau de leurs enfants. C'est un travail conjoint entre les enseignants et les parents.
De quelle manière ?
C'est-à-dire
qu'à la maison, il faut inciter les enfants à lire ?
Oui, ça, certainement.
Être actif.
On sait qu'un des meilleurs prédicteurs de la capacité de lire chez l'enfant, c'est la présence de livres dans l'environnement. Et le fait d'avoir eu des adultes qui vous lisaient des livres avant même que vous ne sachiez lire. Donc ça, c'est très important. Alors l'école peut le faire, bien sûr, elle doit le faire. Hein, et elle doit continuer à le faire au-delà du CP, je pense. Mais les parents aussi. Il y a cette idée très simple qui est on va arrêter de lire aux enfants seulement lorsqu'ils nous licencient. Voilà.
Une question de Naïs sur l'appli France Inter. Quel est l'impact des écrans sur l'intelligence des enfants selon leur tranche d'âge ?
Alors, ça, c'est pas une bonne question. Je m'excuse.
Mais non, au contraire.
Mais je n'aime pas ces questions qui portent sur les écrans. Parce que c'est un petit peu comme si on me disait, mais alors l'impact du papier, alors les écrans, il y en a partout, et il suffit de regarder autour de nous, on est entouré d'écrans.
Oui.
Ce n'est pas l'écran en soi qui compte, c'est l'usage qui est fait de ces écrans. Et par exemple, il y a une vraie question qui est celle des réseaux sociaux. Parce que là, il y a des dommages importants sur la santé mentale des enfants, d'ailleurs à des âges assez précoces, parce qu'après on peut peut-être mieux résister à la pression, mais c'est vraiment un problème de
et
santé
de quelle
mentale.
Manière, de quelle manière
c'est-à-dire il y a par exemple la question du harcèlement a changé.
Oui.
Avant, la question du harcèlement, c'était une question qui survenait dans un milieu scolaire, mais puis on rentrait à la maison et c'était terminé. Maintenant, c'est 24 heures sur 24 avec les réseaux sociaux, potentiellement, le harcèlement. Et les enfants en souffrent beaucoup.
Et si on scrolle pendant des heures à regarder des images de manière passive sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait à notre cerveau, ça ?
Je ne crois pas qu'on le sache très bien, mais au minimum, on perd un temps infini avec des choses qui ne restent absolument pas. Je suis absolument stupéfait par l'usage de TikTok. Effectivement, que voulez-vous que le cerveau retienne d'une image qui est restée 500 millisecondes, une demi-seconde sur un écran, très très peu, trois fois rien. Ça n'est pas un apprentissage approfondi. Ce que montrent les sciences cognitives, c'est qu'il ne faut pas hésiter à approfondir. Il ne faut pas hésiter à ce que les enfants aient une situation un peu difficile, tout en ayant confiance en eux. Mais c'est vraiment la profondeur de l'apprentissage va être plus grande lorsqu'ils ont été confrontés à une situation plus difficile, qui leur demande plus d'efforts.
Est-ce que c'est aussi une façon de lutter contre le vieillissement ? d'approfondir et d'aller chercher des choses plus compliquées. Alors, je pense au philosophe Michel Serres. Il disait que pour rester jeune, il fallait lire chaque jour un texte un tout petit peu plus difficile que ce qu'on arrive à comprendre, écouter un raisonnement un peu plus difficile, bref, faire un effort intellectuel.
La notion d'effort, à mon avis, est très importante. Et il faut absolument réhabiliter le sens de l'effort. Ça m'a surpris, lorsque j'ai commencé à travailler pour l'éducation nationale, de voir qu'il y avait des élèves qui pensaient que s'ils font un effort, c'est qu'ils ne sont pas doués.
Ouais.
Alors que c'est exactement
alors que l'inverse.
Il faut faire des efforts, tout le monde doit faire des efforts, à des degrés sans doute divers, ça dépend de ce qu'on a déjà appris ou pas, évidemment, mais tout le monde doit faire des efforts.
Ça veut dire aller systématiquement chercher le petit cran au-dessus.
Absolument. Par exemple, en mathématiques, il y a ce livre absolument magnifique d'un mathématicien qui s'appelle Polya, qui explique que même si vous avez réussi à démontrer le théorème, vous devez réfléchir d'abord à vérifier ce que vous avez fait, et puis vous devez réfléchir à comment aller plus loin, comment on peut trouver des généralisations de ce théorème. Alors par exemple, vous l'avez fait à deux dimensions, mais on passe à 3, à 4, à 5. C'est ça que font les mathématiciens, et c'est ça qui leur permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin.
Vincent, là aussi sur l'appli France Inter, qui dit « Est-ce que vous pouvez rappeler les dégâts irréversibles de l'alcool sur le cerveau chez les jeunes ?»
Oui, bien sûr. On parlait des drogues dans votre journal. On a un discours sur les drogues qui demanderait une discussion beaucoup plus longue. Il y a des drogues très différentes, mais l'alcool est une drogue terrible. Et on n'est pas tous également vulnérables face à ces drogues. Donc on peut penser que certains s'en sortent. Moi, je vais m'en sortir. Non, c'est une drogue très dure.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Quels sont les effets directement?
Alors, moi, je connais surtout sur les effets sur le cerveau en développement.
Oui.
Ça empêche les neurones de se connecter entre eux de façon appropriée. Il faut imaginer que dans le dernier trimestre de grossesse, vous avez un bouillonnement cérébral absolument extraordinaire. C'est stupéfiant. Les neurones sont des cellules qui sont presque comme des petits animaux indépendants les uns des autres. Donc les neurones excitateurs se grimpent les uns sur les autres pour monter dans le cortex, et il y a une espèce de rivière de neurones inhibiteurs qui irrigue tout ça et qui vient se connecter au milieu de tout ça. Et ces deux phénomènes sont détériorés par la prise d'alcool.
On pourrait parler de toute forme de drogue aussi, hein. On peut parler
oui, mais
de
alors
cannabis,
il faut faire des
etc.
distinctions, voilà, parce que enfin, nous on a envie au minimum, de façon très schématique, de faire une distinction entre les drogues dopaminergiques et sérotoninergiques. Dopaminergiques, c'est celles qui vont vous faire perdre la capacité de libre arbitre, et donc c'est dramatique parce que vous vous sentez obligé de les prendre. Sérotoninergique, c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins addictif, voire pas addictif du tout, et ça peut avoir un effet sur la plasticité cérébrale, et il y a des résultats de recherche clinique qui sont très importants de connaître. Il faut qu'il y ait une recherche sur ces drogues parce que la psilocybine, par exemple, ou le LSD peuvent avoir des effets très positifs sur des patients avec des troubles post-traumatiques.
Il y a beaucoup de recherches là-dessus en ce moment et beaucoup d'essais thérapeutiques.
Très intéressant.
Merci infiniment d'être venu, on pourrait rester encore une heure de plus, il y a encore plein de questions au standard. Merci infiniment Stanislas Dehaene. Je rappelle le titre du recueil de vos chroniques, Une idée dans la tête, chez Odile Jacob, en coédition avec France Inter.